Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Anissa. Et ma mission, vous la connaissez, c'est la même chaque jour. Vous montrer qu'il existe autour de nous des hommes et des femmes qui inventent, qui innovent et qui imaginent la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur les GAFAM, ou plutôt ceux qui cherchent à les remplacer. Ils sont français et eux aussi proposent les mêmes services que les géants américains. Elle existe depuis 1998. Son port d'attache, c'est la Touraine, mais elle nous fait voyager dans le milieu des épices, terre exotique et le groupe Kerex et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis c'est le coup d'envoi des soldes aujourd'hui. Vous ne voulez manquer aucun bon plan sur vos produits préférés. La solution, c'est Dress Club. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez évidemment, comme chaque jour, la parole. Venez nous dire si vous avez, par exemple, changé de moteur de recherche pour vous brancher, ou peu importe, hein, GAFAM ou pas, c'est pareil pour vous. On vous attend, vous nous dites ce que vous en pensez. C'est au 39-21.
Et dites-nous quel est votre quotidien d'homme ou de femme connecté. Hashtag Europe 1 sur Twitter. Et puis vous pouvez également poser toutes vos questions et réagir à l'émission avec les invités de Raphaël Duchemin. C'est au 39-21 qu'on vous écoute, le standard 50 centimes la minute.
Passez par Google, Facebook, Microsoft, Apple ou Amazon, on le fait tous, mais depuis quelques années, face à ces géants américains, des Français ont commencé à construire l'alternative. Chacun est évidemment libre de choisir, et c'est pour vous montrer qu'il est possible de faire autrement qu'on a décidé aujourd'hui de les accueillir sur Europe 1. À mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Sylvain Lambert, associé chez PwC. Bonjour Sylvain.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
C'est vrai qu'on a tous un smartphone à la main aujourd'hui, et quand on fait des recherches, on ne se pose pas de questions, et pourtant, tous nos mouvements sont enregistrés. C'est pour essayer de nous protéger, de protéger nos données personnelles que s'est créée e-Fondation. Bonjour Gaëlle Duval.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En novembre 2017, vous vous êtes aperçu qu'il y avait une sorte de faille finalement, et vous vous êtes dit, il faut créer un nouveau système, j'essaye de schématiser, de simplifier, un système où les données qui passent dans notre téléphone soient justement protégées. Une fois qu'on fait ce constat, on fait comment pour mettre les pare-feux ?
Alors, pare-feux, déjà il faut s'imaginer votre facteur qui ouvrirait tout votre courrier avant de le distribuer et qui, en fonction du contenu, mettrait une petite publicité contextuelle, par exemple, ou un opérateur téléphonique qui écouterait toutes vos conversations pour éventuellement y placer le petit jingle publicitaire qui correspond. Je pense que personne ne le souhaite. Moi, je ne le souhaite pas. Je ne connais personne véritablement qui le souhaite. Et en plus, c'est interdit par la loi, tout simplement.
Et c'est pourtant ce qui se passe, ou ce qui se passait en tout cas.
Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre poche. Tout le temps, on a notre smartphone qui passe son temps à envoyer de la data, ce qu'on appelle nos données personnelles, et qui les envoie en particulier aux géants du net. Nos données personnelles, c'est quoi ? C'est, comme vous le disiez, notre géolocalisation en temps réel, en permanence.
Nos recherches aussi. Hein. Si je cherche un vol pour la Corse pour partir demain, je vais avoir des promotions qui vont arriver sur mon smartphone.
Exactement. Tout votre historique de recherche, vos courriers électroniques. Bon, en bref, c'est toute votre vie numérique. Mais aujourd'hui, notre vie, c'est beaucoup. Ça passe beaucoup par le numérique, donc c'est notre vie numérique. Donc, et ça, c'est 99% des smartphones en circulation. D'un côté, il y a Apple, de l'autre côté, il y a Android pour toutes les autres marques. Et Android, c'est qui ? C'est Google. Et ces gens-là, au final, leur objectif, c'est de profiler les gens et de vendre de la publicité.
Entre-temps, il y a eu le RGPD.
Tout à fait.
Alors, qui est arrivé pour protéger justement règlement de protection des données personnelles.
Alors le RGPD, pour résumer un petit peu rapidement peut-être, c'est plus sur obliger les gens à consentir à ces usages-là. C'est-à-dire c'est un consentement, on leur demande un consentement explicite pour se faire piller leurs données. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir aller plus loin et notamment adopter ce qu'on appelle le privacy by design. Donc le privacy by design, c'est tout simplement par défaut, on n'enverrait pas nos données personnelles.
Donc vous avez fait comment pour contrer ce mouvement qui était finalement fait à l'insu de l'utilisateur? Il faisait des recherches, il était systématiquement pillé sur ses données. Vous dites, moi j'ai la possibilité de faire autrement, je peux offrir une solution.
Oui, alors c'est ce que j'ai commencé à regarder en 2017, effectivement. Moi, je viens du monde du logiciel. J'ai déjà un historique un peu dans ce domaine-là. J'ai déjà créé il y a 20 ans une société sur le PC, mais finalement, c'était déjà un petit peu la même histoire. Et j'ai réalisé assez vite qu'on pouvait, recréer un écosystème complet qui inclurait donc ce système qu'on installe sur des téléphones, des smartphones, et également des services en ligne de base, donc du stockage en ligne, mais sécurisé, de la recherche, son mail, son calendrier, etc., sans absolument envoyer aucune donnée chez Google en particulier.
Donc, vous vous rendez compte que c'est possible. Vous faites comment ? Vous démarrez comment ? Et comment ça se passe ? Vous vous rendez compte très vite que c'était quelque chose que les utilisateurs attendaient ?
Alors, effectivement, c'était la question que je me posais. Est-ce que c'était seulement une question que je me posais moi, ou est-ce que ça avait éventuellement vocation à aller un petit peu plus large, de manière plus large ? Donc, j'ai lancé une campagne de financement participatif fin 2017. Et très vite, j'ai vu que ça s'emballait, en fait.
Vous avez dépassé les objectifs.
Hein. Tout à fait. On a fait x4 les objectifs initiaux. Et surtout, le truc le plus important et qui m'a prouvé qu'il y avait vraiment probablement une demande du marché, c'est que j'ai reçu plein de messages du monde entier qui m'encourageaient dans le projet, qui me souhaitaient la réussite du projet.
Mais attendez, comment je fais ? Là, j'ai mon téléphone à côté de moi. Je veux être sûre que mes recherches sont sécurisées. Comment je sais si telle ou telle appli est fiable, si je ne vais pas aller reverser les informations me concernant justement aux géants américains ?
Alors effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect système, donc le système qui par défaut envoie toutes vos données. Après, il y a les applications qu'on installe. Donc ça, ça dépend des applications, évidemment. Nous, ce qu'on a fait, c'est que dans notre store, notre magasin d'applications, ouais, qui est préinstallé dans le système, en fait, on note chaque application en fonction des permissions qu'il demande, et également ce qu'on appelle les trackers en anglais, les traceurs. C'est des petits bouts de logiciels qui sont installés dans chaque application, qui peuvent envoyer vos données à des tiers, et en particulier chez Facebook, chez Google, etc. Et tout ça, on calcule un score de privacy, de vie privée, et après, c'est aux utilisateurs de décider en connaissance de cause si ils souhaitent utiliser cette application ou pas.
Sylvain ?
Quel est le modèle économique aujourd'hui pour gagner votre vie avec ça ?
Alors, le modèle économique aujourd'hui, il va se baser surtout sur du stockage de données, des plans premium, puisque aujourd'hui, on offre par exemple 5 gigas gratuits de stockage sécurisé sur Internet. Évidemment, si on veut plus, on paiera plus. C'est un modèle relativement traditionnel. Par ailleurs, on a développé avec des partenaires, sur demande de nos utilisateurs, puisque ça reste difficile à installer aujourd'hui, on a développé un partenariat qui permet aux personnes d'acheter le téléphone déjà préinstallé. Donc on travaille aujourd'hui avec des reconditionneurs, des gens qui font du téléphone reconditionné. On a un partenariat pour l'Union européenne, et on est en train de signer un partenariat aux États-Unis et également un en Australie pour pouvoir vendre ces téléphones déjà prêts à l'emploi.
Elisabeth ?
Trois applications sur quatre ont des failles de sécurité qui sont dangereuses pour nos données personnelles. Est-ce que votre logiciel s'applique aussi sur les applis ?
Alors, c'est effectivement, pour nous, c'est une mission justement d'informer les utilisateurs. Ce que je disais tout à l'heure, notre store d'applications donne une note aux applications en fonction de ce qu'il y a dedans. On les analyse systématiquement, notamment pour communiquer
auprès des trackers. Si elles sont des mouchards ou pas.
Donc on sait si elles sont sûres ou si elles ne sont pas.
Exactement.
Vous nous le dites.
Ensuite, on envisage d'aller un petit peu plus loin et notamment de pouvoir bloquer les mouchards pour les utilisateurs qui le souhaitent.
On reste ensemble et on continue à parler de ces options face aux GAFAM aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous surfez sûrement sur les réseaux sociaux, mais vous allez voir qu'il existe une alternative française. Elle est lilloise et elle s'appelle Glade. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec aujourd'hui un débat passionnant puisque nous découvrons les alternatives françaises aux GAFAM. Voilà, comment vous protéger, comment lorsque vous êtes connecté, essayer de conserver au maximum vos données personnelles. On en parle aujourd'hui avec Raphaël Duchemin et ses invités. N'hésitez pas vous aussi à poser toutes vos questions, j'imagine que ce sujet vous intéresse. 3921 c'est le standard, hashtag Europe 1 pour vos messages sur Twitter.
Et c'est à Lille qu'est né le réseau social français Glade avec une ambition proposée. Une approche plus éthique, nous permettre aussi de reprendre le contrôle et devenir aussi un couteau suisse. Bonjour Vivian Lemoyle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Glade. Ça fait 2 ans hein, maintenant que le réseau en tant que tel est lancé. L'idée date d'un peu avant, 2015. Mmh. Racontez-moi d'abord pourquoi et comment ce projet vous est venu.
Alors bonjour à tous, merci pour l'accueil déjà. L'idée Glaze, elle a émergé en 2014. Donc on est un groupe d'amis. On s'est rendu compte que chaque année dans le monde, il y a entre 15 000 et 20 000 réseaux sociaux qui naissent chaque année. Ils sont tous sur une base d'entreprise et chacun a un peu la volonté de concurrencer ce qu'on appelle les GAFA américains ou asiatiques, comme Facebook, LinkedIn ou WeChat, enfin, pour les plus connus. Or, en Europe, on n'a pas la mentalité anglo-saxonne, on n'a ni les assises financières et ni la volonté politique de créer vraiment une vraie alternative. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a trouvé nous, une solution qui paraît un peu folle. Au début, on nous prenait tous pour des zinzins. C'est que face à des monstres financiers américains avec une capitalisation boursière qui est énorme, comme qui sont à 600-700 milliards de dollars en bourse, on a eu l'idée de créer un monstre open source européen. Donc pour nous, l'open source, c'est la solution qu'on peut apporter, la réponse européenne.
Alors on va expliquer ce qu'est l'open source peut-être.
Oui, alors j'essaie de ne pas parler en schtroumpf. L'open source, c'est
et à vous rapprocher un tout petit peu du micro si vous pouvez.
L'open gentil. Source, c'est du logiciel libre. Donc c'est un peu le plus connu, c'est Linux. Donc c'est un logiciel où chacun on peut coder, apporter. Donc
ça veut dire chacun finalement est contributeur.
Chacun est contributeur, exactement, tout à fait.
Votre première plateforme, vous la lancez comment? Elle fonctionne véritablement depuis le mois de mars, hein, je crois.
C'est ça, exactement.
Et à la rentrée, le réseau, lui, sera opérationnel. Mais comment ça marche? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne?
Alors, dans la première version qu'on a mise, c'est une espèce d'agenda géant. Donc, Glaze, c'est un outil de communication ciblé. Donc, ça permet donc, aux particuliers, aux professionnels et aux associations de saisir leur centre d'intérêt pro et perso et directement de se mettre en corrélation avec les personnes qui partagent le même centre d'intérêt. Donc en fait, Glaze sert de redonner le pouvoir à ceux qui en ont besoin en créant des événements ciblés auprès des gens qui partagent le même centre d'intérêt. Donc pour la première version, et ça va se terminer sur une énorme plateforme comme Facebook où on va pouvoir switcher du mode pro au mode perso en une seconde ou de passer en mode privé. Donc c'est-à-dire la possibilité de créer son propre réseau.
D'avoir deux réseaux parallèles en un.
Exactement,
finalement.
C'est ça, tout à fait.
Combien d'utilisateurs sur cette première version?
Alors là, on a dépassé les 30 000 utilisateurs. Dans la version, pensant qu'il y a une version 100%, enfin, qui est utilisable que sur ordinateur, on va préparer l'application mobile. Et on se base sur des réseaux étudiants, sur des ambassades, enfin beaucoup de gens qui commencent à arriver dans l'écosystème et qui vont commencer à le diffuser.
Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous rassemblez à la fois dans ce réseau des fonctionnalités qui sont celles de Facebook et aussi celles de Mythic, mais en sécurisant les fameuses données personnelles.
C'est ça, tout à fait. Donc, d'anglaise, on veut une transparence totale. Donc on fait partie des zinzins qui vont voir la CNIL. On aimerait faire un partenariat avec eux pour leur...
La Commission nationale informatique et liberté.
Exactement, c'est ça. Pour leur permettre... On aimerait faire un partenariat pour leur donner un droit de regard, pour mettre en évidence que dans Glaze, aucune donnée ne sont ni exploitées ni revendues par rapport à ça. Et Glaze, ça sera toujours aussi un outil. On crée une démocratie numérique. Donc, c'est vraiment un but non lucratif. Donc, il n'y aura jamais de bénéfice.
Ça veut dire que c'est gratuit.
Et ça va le rester.
Et vous travaillez avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est un autre coach, hein, qui est Eric Léandre, le fondateur de Quant. Une question du coach d'aujourd'hui, Sylvain Lambert.
Oui, donc là, on rentre enfin dans la guerre des données contre les États-Unis. Et je voulais savoir quelle est la réaction des pouvoirs publics français et européens, en particulier, on va dire, des acteurs militaires de défense et de protection en termes de renseignement. Est-ce que c'est des gens avec qui vous avez des échanges?
Alors oui, on a des échanges avec eux. D'ailleurs, on était très étonnés parce que quand on parle au monde politique, beaucoup on leur parle en schtroumpf, on parle de souveraineté numérique et c'est un peu compliqué avec eux. Moi, par exemple, je tiens à remercier le colonel Mokadim à l'armée qui a inscrit l'armée d'anglaise, qui a compris très vite ce que Glaze va apporter, par exemple, dans le cadre de l'armée ou de la gendarmerie. Les premiers, c'était le colonel Mirabeau pour la gendarmerie et M. Mokadim. On a proposé Glaze, non pas en substitution, mais en complément des réseaux existants, dans un premier temps, par exemple, pour le recrutement. Donc, on va permettre à l'armée, à la gendarmerie, qui dépense des millions d'euros chaque année pour le recrutement, d'utiliser la plateforme Glaze en communication ciblée pour les aider pour le recrutement ou demain pour la réinsertion dans la vie professionnelle, tout simplement.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé d'autres Français qui, par exemple, se positionnent pour concurrencer Facebook.
Mais oui, parce que Facebook, ça fait rêver. Hein. C'est une super réussite. Donc, il y a Waller qui se veut l'après-Facebook, W-H-A-2-L-E-R. Il a été créé en 2013. C'est un réseau social français qui propose donc une alternative à Facebook. Il y a 400 000 utilisateurs. Il n'est financé ni par la pub, ni par l'exploitation des données personnelles. Et les fondateurs disent qu'ils veulent redonner le contrôle aux utilisateurs. Ce sont eux qui maîtrisent chaque paramétrage.
Alors justement, quelle est la différence entre Waller, par exemple, et Glades?
Thomas Forêt, on l'a rencontré...
C'est le fondateur, Thomas Forêt.
Oui, tout à fait, exactement. Au partenaire de l'IT à Place Vendôme. J'encourage, justement, on trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et j'encourage son initiative. Mais pour nous, c'est bête, c'est que...
C'est deux propositions différentes.
C'est deux propositions différentes. Et aujourd'hui, c'est... vous allez voir dans la nouvelle génération, qui va sortir sa carte bleue pour s'inscrire sur un réseau social. C'est bien de militer pour que ce soit français, pour la protection des données. Mais quand vous prenez les trois quarts des étudiants, on est tellement habitué à des réseaux gratuits comme Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, qui sont fun. On a du mal, nous, à concevoir qu'on va, c'est, on va sortir une carte bleue.
Parce que Waller est payant ?
C'est payant, tout à fait.
C'est la principale différence pour vous, c'est effectivement rester gratuit, vraiment totalement ouvert.
Voilà, c'est une excellente initiative, je le répète encore, mais pour une vision européenne, c'est un peu compliqué.
Sylvain ?
Et donc, comment vous gagnez de l'argent ? C'est un peu la même question que tout à l'heure, quel est le modèle économique,
Alors,
la solution ?
Alors, dans Glaze, on ne gagne pas d'argent. Et Glaze ne sera jamais fait pour gagner de l'argent. Donc, une fois que ça a tourné, ça pourra mettre certes des bons salaires, ça pourra en payer des codeurs, etc. Mais Glaze ne deviendra jamais une entreprise. Si Glaze devient une entreprise, il va perdre toute son âme. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer et de rester sur cette initiative d'open source européenne. Parce que c'est la seule chose et c'est la seule puissance qu'on peut offrir face aux GAFAM américains. Pourquoi ? C'est que demain, Google, vous allez concurrencer, vous êtes une entreprise, il va avoir la possibilité de dégommer tout le monde sans aucun problème. Tandis que demain, imaginez, Google veut s'attaquer à Linux, c'est impossible.
Ça signifie que le fait de ne pas faire entrer d'argent dans le réseau social pour le financer, finalement, c'est ce qui va permettre de le faire émerger, de le sauver, de le pérenniser ?
Glaze, il va avoir de l'argent dans Glaze, mais c'est simple. Pour l'instant, c'est que de l'apport au personnel. J'ai trouvé une SSOZ partenaire, BBND, qui est spécialiste en cybersécurité, qui est dans le digital, qui m'aide à développer la plateforme Glaze avec plus de 110 bénévoles qui sont sur le côté. Donc, c'est des gens qui sont très engagés à travers ça. Il y a eu plus de 300 000 euros, entre guillemets, d'investis depuis le début de l'aventure. Et on va être bientôt d'intérêt général. Donc, nous, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de regarder avec des entreprises.
Vous voulez servir la société, donc ?
Pardon ?
Vous voulez servir la société à travers plusieurs... Vous voulez servir la société ?
Oui. C'est ça, tout à fait.
On continue dans un instant, on reste ensemble et on parle justement de ces alternatives aux GAFAM.
Il est 13h20.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Quand on est une entreprise, vous allez voir qu'on a aussi la possibilité d'être hébergé, son site internet par exemple, par un des géants du web pour avoir le choix. Eh bien, le fondateur de Vélost, lui, a décidé de construire sa propre solution. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1. Aujourd'hui, Raphaël Duchemin, vous nous faites découvrir les alternatives françaises aux GAFAM. Vous pouvez réagir, n'hésitez pas. Vos questions, vos réactions, hashtag Europe 1 sur Twitter.
Quand on est une entreprise, qu'on a un site internet, on se pose presque jamais la question. On se sert des GAFAM pour se faire héberger. Mais avec la question de la protection des données, les choses sont en train de changer. Bonjour Sébastien Reuillet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Vélost. Vous avez développé un projet à côté de votre travail. Vous étiez vous-même développeur, je crois, et vous ne vouliez pas être contraint par les options justement qui s'offraient à vous. C'est ça ?
C'est exactement ça. Donc en tant que développeur, on a forcément besoin tôt ou tard de mettre son projet web en ligne. Et là, on a la solution de la simplicité qui est offerte par du Amazon avec AWS ou du Google. Et on a la possibilité avec des hébergeurs français de travailler, mais le problème c'est qu'on a des interfaces web qui n'étaient pas forcément aussi avancées. Et le choix de la simplicité s'imposait. Donc l'idée c'était d'avoir mes outils à moi.
Ouais, du coup, vous avez commencé à concevoir votre propre projet. Comment est-ce que vous avez fait pour contourner justement et faire exister un autre outil ?
L'idée, c'est un peu de prendre à contre-courant ce qui se passait. C'est qu'on avait des solutions qui étaient emprisonnantes chez les cloud providers.
Et parce qu'on vous donne un package obligatoire, c'est ça ? On vous dit, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre ça et ça, si vous voulez être hébergé.
On vous dit par la simplicité, c'est un peu comme un moteur de recherche Google qui est, on est là, on est simple, on est gratuit. Enfin, là, c'est pas gratuit, mais presque. On amène des outils qui font qu'au final, on se pose même plus le choix de ce qu'on est venu chercher au départ. C'est des serveurs, donc du stockage et des unités de calcul pour héberger notre site. Et on se laisse enfermer avec des outils qu'il y a autour et au final, après, on peut difficilement aller d'un hébergeur à un autre.
Donc vous vouliez dissocier tout ça,
c'est ça,
et pouvoir avoir plusieurs options sur la table.
Voilà, l'idée c'était vraiment de dissocier la boîte à outils que j'ai construit de l'hébergeur, ce qui me permettait d'avoir un vrai choix sur l'hébergement.
Votre solution, elle est efficiente depuis quand ?
Alors,
2017, c'est ça ? Ça a commencé ?
J'ai commencé à 2017. Alors, elle était, il y avait les outils derrière, mais il n'y avait pas l'interface. Donc, aujourd'hui, ça se présente comme une application dans le navigateur qui est hébergée en France et qui va permettre d'aller piloter des serveurs chez l'hébergeur de votre choix.
Donc, si j'ai un site à créer pour une nouvelle activité, je peux chercher Vélost et demander à ce que vous hébergiez mon site. Je serai totalement protégée.
Oui, alors totalement protégé. On installe des CMS, par exemple, open source. Donc, pour faire un site, on va avoir besoin d'outils.
Les CMS ?
CMS, c'est des management de contenu.
D'accord.
Donc ça va être tous les sites aujourd'hui, la grande majorité sont faits sur WordPress, par exemple, qui est un outil open source. Et pour le coup, chacun son métier. Moi, je ne fais pas du CMS, je ne fais pas de l'outil pour créer du site.
Gratuit.
Je fais un outil pour héberger le site. Et je ne fais pas non plus l'hébergement, parce qu'il y en a qui le font très bien, et des Français qui le font très bien. Donc je suis vraiment là pour permettre à ceux qui ont conçu les sites web de les mettre en ligne.
Elisabeth, vous avez parlé on a parlé tout à l'heure de Google et d'Amazon. Je crois que vous avez trouvé aussi des options différentes, hein, françaises aussi.
Mais oui, pour Google, mais on a Quant, hein, évidemment, oui, hein, que nous connaissons très bien ici à La France Bouge, qui a été lancé aussi en 2013, qui annonce, là, depuis qu'il a été lancé, qu'il ne trace pas ses utilisateurs, qu'il ne vend pas de données personnelles, qu'il garantit la vie privée. Voilà, il reste complètement neutre pour concurrencer Amazon. Bah, figurez-vous que France Loisirs, vous connaissez France Loisirs, qui existe depuis les années 70, hein, c'est un club de vente de livres par correspondance qui souhaite faire accéder à la lecture, même dans les coins les plus reculés. Il souhaite concurrencer Amazon, il souhaite concurrencer ce géant du web. Et vous avez aussi FrenchMart. FrenchMart, ça a été lancé par un jeune homme, il a âgé 18 ans. C'est lancé depuis 2 mois. C'est une plateforme spécialisée seulement dans les produits made in France, hein, Amazon 100% français.
Que dit notre coach Sylvain de la solution Vélost ?
C'est quoi le plan de développement ? Vous voyez à quelle taille déjà vous en êtes où et vous allez suivre puis quel chemin ?
Alors pour l'instant du coup c'est une activité à côté, donc je réfléchis aujourd'hui, j'ai des bons retours clients sur mon produit.
Combien de clients d'ailleurs ?
Là aujourd'hui j'ai une dizaine de clients, c'est des clients qui font plusieurs sites, donc aujourd'hui on doit être à peu près à 200 sites hébergés. Donc c'est tout nouveau, mais là vraiment où je veux pas me faire absorber, c'est que il y a beaucoup d'éthique dans tout ça, et forcément on va arriver à, si on lève des fonds, on va aller chercher de l'argent, et l'argent aujourd'hui clairement on vient la chercher dans la data, et moi ça m'intéresse pas, c'est pas mon projet. Donc aujourd'hui je prends le temps d'avoir une solution qui fonctionne, je me pose la question de le mettre en open source, parce que je repose sur des solutions open source, mais la mienne en l'état ne l'est pas. C'est des questions d'ouverture, mais il faut bien réfléchir à le truc avant de le lancer.
Sylvain, ça répond à votre question ?
Oui, mais justement, donc, il n'y a pas de fonctionnement réellement économique ?
Alors, il y a un abonnement, du coup.
D'accord.
C'est une application web où on s'abonne par serveur.
D'accord.
Donc, si vous avez 10 serveurs, vous payez 10 abonnements. Et
abonnement qui est élevé, qui est à combien ?
C'est 4,90€ par serveur.
4,90€.
Et on paye un abonnement à l'interface. Donc, il n'y a aucune collecte de données, on n'exploite rien du tout. C'est vos serveurs, il y a juste un abonnement.
Là, j'avais compris qu'il y avait un futur concurrent, clairement affiché de Facebook, voire de le remplacer. Vous, par rapport aux solutions que vous évoquiez, vous voulez vous positionner au même niveau de taille, ou c'est vraiment une solution alternative et c'est une passion, ou vraiment vous avez cette ambition d'être une alternative à l'hébergement, au grand de l'hébergement que vous avez cité ?
Alors sur l'hébergement web, j'espère que ça va grandir et vraiment je serai très heureux de le déployer. Sur les solutions cloud, vraiment, que Amazon peut apporter par exemple, il y a du chemin à faire, et même quand on regarde les grosses écuries comme OVH, ont du mal à le faire.
OVH qui est français.
Qui est français, sur du cloud, ils y sont et ils y travaillent, mais on voit aujourd'hui qu'ils peinent à convaincre sur ces trucs-là.
On reste ensemble et on continue à parler des alternatives aux GAFAM sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. On parle des alternatives françaises aux GAFAM aujourd'hui. Pour poser vos questions, c'est maintenant que ça se passe au 3921, Raphaël Duchemin.
Oui, et on a déjà une question pour Gaël Duval, qui est fondateur de eFoundation, pour Sébastien Royer, qui est le fondateur de Vélost, et pour Vivian Lemoyle, qui est le fondateur de Glades, le réseau social. C'est Jean-Claude qui nous la pose. Jean-Claude est à Brive-la-Gaillarde. Il dit « Je suis informaticien depuis moins d'un an. Les fondeurs de processeurs sont passés à des versions de processeurs plus puissantes. Et on va se retrouver avec des serveurs encore plus puissants qui vont servir uniquement à ces GAFAM, qui vont leur permettre de nous surveiller encore plus et de garder encore plus d'infos. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la position de Jean-Claude qui a fait un 39-21 depuis la Corrèze ?»
Ah,
Bon, alors, mystère total dans l'entourage, dans le studio d'Europe 1.
Mystère total, on a une technologie qui en 20 ans a explosé. On regarde simplement l'utilisation des smartphones. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus besoin de stockage. Et effectivement, le dilemme maintenant, il est là. On a deux choix. Il y a trois choix. Il y a l'écosystème américain, où bien sûr, tout le monde le sait, c'est une hypocrisie, sinon il y a une collecte de données. On a la Chine qui arrive avec la nouvelle route de la soie. Il faut savoir qu'il y a près de 1 000 milliards de dollars qui ont été investis en 7-8 ans, ce qui est énorme. Et de l'autre côté, on peut créer, c'est ce qu'on milite à travers Glaze, c'est en rassemblant l'ensemble des initiatives européennes et en sensibilisant le politique, on peut créer cette vague européenne sur la souveraineté des données. Donc si demain le politique prend en main les choses, on n'attend pas d'aller à la catastrophe, on commence à en fédérer les différents projets, parce que c'est génial, on a tous des projets qui sont extraordinaires là autour de la table.
Donc il y a la place partout. De faire autrement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
On peut faire autrement, ce que Éric Landry crie dans tous les toits, et on peut le faire.
Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose d'important à souligner ici, c'est que de quoi on parle là ? On parle en fait, à travers nos projets, on parle de la réappropriation d'une forme de souveraineté numérique, c'est peut-être un grand mot, en tout cas d'indépendance numérique face à des monstres, et je pense qu'on peut le faire qu'au niveau européen, et pour faire ça, on parle aussi d'infrastructure, et je pense qu'on a besoin aussi du soutien des pouvoirs publics pour financer tout ça sur d'autres modèles, sur des modèles plus vertueux, plus éthiques, qui répondent peut-être davantage aussi à la culture européenne. Et ça me semble très important aussi de faire passer ce message.
Le temps est passé très vite. Sébastien Rayet, peut-être d'un mot ?
Très vite, ouais, je suis assez d'accord. Mais sur les processeurs et les machines qui sont plus performantes, on en profite aussi clairement parce que nos services ils sont hébergés en France, mais on a besoin de machines comme les GAFAM. Donc on en profite aussi et ça nous permet d'abaisser les coûts aussi.
Dernière question peut-être de notre coach, Sylvain.
Oui. Et dans combien de temps vous voyez arriver à votre cible en particulier sur votre réseau Glazed ?
Une cible complète, là, on va être sur un horizon de 4 à 5 ans.
4 à 5 ans.
Remplacer Facebook.
Gaël Duval, même question pour vous.
Nous, on a lancé notre première version il y a moins d'un an, il y a 8 mois. Donc on est au début, mais on a une très bonne traction et on pense que ça peut aller assez vite, notamment grâce à l'open source.
Et pour vous, Sébastien ?
Non, moi, j'espère atteindre un nombre de sites conséquents, mais j'espère surtout faire bouger les choses. C'est que je ne suis pas anti-GAFAM dans le sens où je ne veux pas tout tirer à boulet rouge. Je veux au moins qu'on se pose la question quand on veut héberger des services et quand on utilise des sites web, qu'on se pose la question où est-ce que c'est ? Est-ce que ça fait travailler des Français ? Est-ce que c'est des gens qui payent des impôts en France ? Est-ce que c'est des gens qui prendront mon petit neveu en stage ? Et toutes ces questions-là, je veux au moins qu'on se les pose.
C'est en tout cas quelque chose qui existe. Hein. On a eu la possibilité aujourd'hui de vous découvrir si on ne vous connaît pas encore. Merci à tous les trois d'être venus.
Merci à vous.
Nous présenter ces alternatives aux GAFAM.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle organise ce week-end le premier festival des poivres et est devenue un des leaders dans l'importation d'épices Kerex et l'entreprise qui va bien. Merci. À tout de suite.
Europe 1.
Et la France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, il est temps de découvrir l'entreprise française qui va bien et qui met beaucoup de saveurs dans nos assiettes aujourd'hui.
Oui, effectivement, cette entreprise, elle est née en 1998. Bonjour Erwan de Carros.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui l'avez fondée. Cette entreprise, c'est Kerex, mais c'est surtout pour nous, grand public, terre exotique. Terre exotique, ce sont des épices qu'on trouve dans les épiceries, dans les grandes surfaces aussi.
Oui, principalement. Enfin, c'est une collection de presque 500 références aujourd'hui qui s'articule autour des poivres, des épices, des baies, des sels et qui viennent de dizaines et de dizaines, une cinquantaine de différents pays dans le monde et qui est distribuée principalement auprès de l'épicerie fine indépendante, à laquelle je suis très attaché,
oui.
Et aussi restaurateur, gastronomique ou bistronomique ou autre. Voilà.
Mais comment vous vient l'idée ? Parce qu'au départ, vous exportez des fruits exotiques. Je crois que vous aviez passé une partie de votre vie au Cameroun et vous y aviez dirigé une plantation de poivre. Et c'est donc le poivre qui commence l'aventure.
Oui, c'est le hasard de la vie, comme très souvent, j'imagine. Donc après mes études, j'ai quelques mois un peu à perdre et je décide ou je tombe sur l'opportunité de partir m'occuper quelques mois d'une plantation de poivre à Penja, au Cameroun. Et puis cette expérience, finalement, va durer 4 ans. C'était absolument passionnant. Donc voilà, la récolte, la tenue des l'entretien des parcelles, la culture d'ananas aussi.
Et ensuite, vous commencez à exporter ce poivre.
Et effectivement, le poivre de Penja, qui était pas du tout connu à l'époque. J'en ai fait petit à petit la promotion. Il faut dire qu'il a beaucoup de qualités intrinsèques. C'est un grand cru de poivre que les gens apprécient énormément. C'est le poivre du moulin, de la table, du quotidien aussi. Mmh. Et donc voilà, c'était un chemin qui a 25 ans maintenant. Et d'ailleurs, le poivre de Penja est devenu, il y a 3 ans, la première IGP du continent africain. Donc c'est une grande fierté.
Fierté aussi parce que vous le mettez, ce poivre, sur la table des étoilés.
Oui.
C'est aussi comme ça qu'il se fait connaître.
Oui, oui, oui. Et puis aussi en épicerie fine. Et puis il fait son chemin parce qu'il a un parfum qui est merveilleux. Et en fait, c'est chacun d'entre nous. Vous savez, le poivre, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de poivre sur sa table ? C'est une épice extrêmement populaire, partagée par tous. C'est une forme de trait d'union universelle. Vous avez des poivres, toutes les populations de Sumatra, du Népal, du Cameroun. Où que vous alliez au bout du chemin et après vous marchez, vous tombez dans une famille au milieu d'une cuisine dans laquelle il y a un mortier et qui utilise son propre poivre localement. Et donc c'est ça notre cheminement depuis 25 ans chez Terre Exotique.
Et comme vous êtes un voyageur, vous êtes allé à la rencontre d'autres épices, hein. Vous vous êtes dit qu'il faut élargir la gamme. Comment est-ce que vous avez fait pour choisir, pour sélectionner ?
La sélection se fait naturellement au gré des rencontres, des voyages, des salons aussi, des restaurateurs, des idées, des sollicitations de nos clients. Et puis, lorsque vous allez, par exemple, au Népal, pour voir comment pousse la baie Timour, sur les hauteurs, comme ça, dans les montagnes, vous tombez dans les marchés sur d'autres
types. Elle est là avec nous sur Europe 1,
la baie Timour. Oui, avec ses notes de pamplemousse très caractéristiques, qui s'utilisent beaucoup en ce moment, qui est très en pointe, la baie Timour du Népal.
Et vous en avez comme ça combien ? Un demi-millier dans votre catalogue, c'est ça ?
Oui, à peu près 500. Oui, c'est une collection extrêmement profonde. Et quand on va sur le marché de Loum, au Cameroun, à côté de Penja, on tombe encore sur des épices, les graines de la paix, les PB, que seuls les Camerounais ou les Camerounaises connaissent parce qu'ils l'utilisent dans leur propre cuisine, mais qui nous est inconnu. Donc c'est ça un peu notre rôle, comme ça, de transmission d'informations et de culture à travers la... Voilà, à travers ses baies, ses graines, ses poivres.
On voyage beaucoup, mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'entreprise, son ancrage, il est en Touraine.
Oui, il est en Touraine, à Rochecorbon. Et d'ailleurs, nous organisons ce week-end...
Oui, le premier festival des poivres.
Le premier festival international des poivres. C'est un festival ouvert à tous qui a lieu le 29-30 juin à Saint-Cyr-sur-Loire. On a invité une douzaine de nos amis producteurs de poivres qui viennent du Cameroun, du Népal, d'Inde, du Chili, d'Éthiopie, du Congo, etc., etc. Il y a une douzaine de pays représentés, ils vont discuter entre eux, ils sont là pour parler de leur passion. Des conférences, l'histoire du poivre, le poivre est le moteur de toutes les découvertes.
Vous êtes passionné hein, quand vous parlez de poivre.
Ouais, c'est
une entreprise familiale aussi aujourd'hui, Kerex.
Oui,
vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous ?
On est une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui. Très présents sur le marché de l'épicerie fine et de la gastronomie.
Que dit notre coach, Sylvain ?
Quel est le rapport au plan, je veux dire, social et environnemental avec tous ces producteurs ? Puisqu'on imagine qu'ils sont tous dans les pays que vous avez évoqués. Est-ce que c'est un point d'intérêt ? On imagine, en vous écoutant, leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, les enjeux environnementaux de la production, les conséquences environnementales.
Pour nous, c'est absolument fondamental, beaucoup de titres. Alors, on le revendique peu sur nos étiquettes, je ne vous le cache pas, ce n'est pas marqué
étiquettes
en grand.
Étiquettes qui
y a
sont
pas
les mêmes d'ailleurs depuis le début.
Pardon ?
Étiquettes qui sont les mêmes depuis le début.
C'est les mêmes, elles n'ont pas changé depuis l'origine, c'est vrai, c'est assez classique. Moi j'ai passé quand même du temps dans ces plantations, chaque année le poivre se récolte, il faut donc trouver des clients et le partenariat durable avec nos producteurs est fondamental et fait partie de notre ADN. J'allais dire même aussi notre partenariat vis-à-vis de notre clientèle, aussi constituée d'épiciers ou de magasins indépendants. Et bon, on a besoin de se tenir aussi main dans la main, aussi à l'aval, si j'ose dire, chez nos clients. Et donc, on envoie des étudiants en fin de cycle, notamment des ingénieurs agronomes, qui, entre guillemets, dans notre expression interne, nettoient les filières. C'est-à-dire qu'on fait énormément d'analyses, on est premier metteur en marché européen, donc on a une responsabilité très forte. La qualité c'est stratégique. On a décidé d'ailleurs nous-mêmes d'intégrer l'ensemble de notre production, de notre conditionnement chez nous, pour avoir un meilleur suivi qualité. Et on ne peut rien faire si les différents fournisseurs ne sont pas eux-mêmes sur ce chemin de la qualité, c'est-à-dire, évidemment, non-utilisation de chimie, naturalité des choses. Bon, en général, les baies, les graines, c'est assez simple, ça sèche au soleil. Voilà, mais on fait évidemment très attention à toute cette démarche pour cultiver nos racines. Vous savez, les racines, c'est ce qui ne se voit pas, mais c'est ce qui nous fait tenir debout lorsque le vent fraîchit.
Oui.
Et donc, voilà.
Et c'est essentiel. Kerex, marque d'épices Terre Exotique, fondée en 1998. Merci d'être venu nous en parler sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous ne voulez pas passer à côté d'une bonne affaire sur vos produits préférés pendant les soldes, évidemment, qui commencent aujourd'hui. La solution, c'est Dress Club et c'est dans un instant. À tout de suite.
Jusqu'à 14h sur Europe 1, vous écoutez Raphaël Duchemin, la France bouge. Raphaël, aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes. On va faire les magasins, mais vous avez un bon plan pour nous.
Hein. Oui, difficile de trouver le bon prix sur un produit qui nous fait rêver. Elisabeth, vous avez trouvé la solution. Ça s'appelle Dress Club.
Mais oui, ce sont les soldes et souvent, pendant cette période, c'est compliqué de repérer parmi les milliers de promotions la vraie bonne affaire. Alors pour répondre à ce constat, Dress Club, c'est une appli qui détecte en temps réel les meilleures promotions dans la mode. Elle les partage avec les utilisateurs selon leur taille, leur pointure et leurs préférences vestimentaires. Comment ? Eh bien grâce à des partenariats avec des grandes enseignes. Cette appli analyse les variations tarifaires, un peu comme la bourse, de plus de 9 millions de produits chaque jour. Bonjour Aymeric Caramico.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Dress Club. Alors grâce à votre appli, comment nos auditeurs vont pouvoir réussir à faire leur solde ?
En fait, c'est assez simple. En téléchargeant l'application, ils vont, comme vous l'avez dit en introduction, ils vont définir un petit peu leur goût, leur marque préférée, surtout donner leur pointure, leur taille de vêtements.
Et là, c'est important pendant les soldes.
Hyper important. Et là, dès qu'on va détecter parmi les maintenant 10 millions d'articles, on a gagné un million depuis une semaine, détecter une bonne opportunité à saisir, on la partage et on les fait matcher en fait, avec les bons utilisateurs et uniquement les bons utilisateurs.
C'est quoi un bon utilisateur ?
C'est celui qui va avoir le style qui correspond aux vêtements, la pointure disponible, la taille disponible. On ne va pas inonder d'offres comme on peut l'être parfois, alors qu'elles ne vous correspondent pas, tout simplement.
Donc c'est de l'offre personnalisée au meilleur prix.
Exactement.
Vous avez des liens avec des grandes enseignes connues ou c'est quoi ce sont des boutiques de quartier ? Quel type d'enseigne ?
Non, on a la chance d'avoir avec nous des grands partenaires e-commerce pour commencer. Je pense au Galeries Lafayette, La Redoute, Asos, Amazon, je vous fais pas toute la liste, mais on a beaucoup de chance. En fait, ils ont compris qu'on s'attaquait à un fléau. Ce fléau, ce sont les invendus, tout simplement. Ça présente 14% des stocks dans la mode. On peut valoriser ça à 5 milliards d'euros, rien qu'en France, chaque année. Et grâce à nous, on va amplifier leur promotion pendant la durée de vie du produit, pendant la durée d'écoulement en pleine collection.
Et vous gagnez comment votre vie ?
À nous, c'est assez simple. On met en relation les utilisateurs avec ces e-commerçants. Et s'il y a une transaction qui est faite par notre biais, on est rémunéré via une commission. Ça ne coûte évidemment pas plus cher pour l'utilisateur.
Sylvain, je crois que vous êtes en train de faire les soldes. Hein.
Oui, j'étais vraiment en train de regarder. Et par rapport à tout le débat qu'il y a eu sur les données personnelles qu'on a eu pendant toute cette heure, justement, j'ai cru comprendre, je reçois du push de votre part ou il faut que j'aille sur l'appli ? Est-ce que je vais me retrouver spammé tel un fou à partir du moment où je me suis inscrit sur votre appli ?
Ah, mais ça, c'était dès le départ, dans nos réunions, hyper important, ne jamais spammer nos utilisateurs. C'est-à-dire que d'une part, on laisse le choix, et c'est le fameux consentement de la RGPD. Et puis par ailleurs, on va essayer de faire en sorte que si on vous envoie une notification parce que vous l'avez désiré, c'est vraiment parce que notre algorithme aura matché au mieux votre attente avec l'opportunité à saisir.
Ça y est, j'ai trouvé quelque chose pour toi.
Il y a des chances vraiment de te plaire. Donc, ce n'est pas du spam pour du spam, en tout cas.
Et alors, votre appli est sortie là récemment, le 23 mai. Votre start-up est incubée par l'Institut français de la mode à Station F. Vous avez levé des fonds pour en arriver là ?
Alors, on a eu la chance d'être soutenu par le fondateur des magasins Bureau Vallée. Là, on est vraiment sur du vrai commerce. On n'est pas sur de la start-up, mais c'est formidable parce que c'est du bon sens commerçant à nos côtés, autant financier que pour le mentoring. Donc, on a fait cette première levée de fonds en début d'année et la prochaine étape, ce sera une levée de fonds juste à l'automne. Vous l'avez dit, démarré le 23 mai et là, on a plus de 1000 nouveaux utilisateurs par jour. Je dois vous dire que j'ai du mal à masquer le sourire sur mon visage en ce moment.
Ah oui, ça se voit et ça fait du bien. Vous êtes combien à travailler chez Dress Club aujourd'hui ?
Alors, on est deux associés aujourd'hui, Xavier Olivier, moi, et puis après, il y a plein de personnes, une dizaine de personnes qui travaillent avec nous au quotidien sur ce projet. En fait, nous, il y a un mot d'ailleurs que j'aime bien. Désolé, je me cite.
Mais, oui, mais allez-y.
Il y a une phrase, je trouve, qui résume bien ce qu'on fait. C'est le secret pour profiter d'un bon plan, c'est de savoir qu'il existe.
Bon, et je signe.
Voilà, c'est signé Dress Club, c'est signé Emeric Cavarico. Merci d'être venu nous présenter cette solution pendant les soldes. Merci à Sylvain, qui était notre coach. Nous, on se donne rendez-vous demain. Et n'oubliez pas la France des solutions. Vous pouvez d'ores et déjà postuler sur le site d'Europe 1.fr.